le Club Tour, c'est jusqu'à 20h avec vous, Axel May. Vous êtes en direct d'Épernay.
Oui, première arrivée en France du Tour parti samedi de Belgique et premier succès tricolore. 5 ans que la France n'avait pas connu ça, un coureur en jaune. Qui est vraiment le phénomène Julian Alaphilippe qui a donc gagné cette 3e étape ici à Épernay? Jusqu'où peut-il aller? Combien de temps peut-il espérer conserver ce maillot de leader? On en reparlera dans un instant dans le Club Tour avec notre consultant Thomas Voeckler et observateur avisé. Bonsoir Thomas.
Bonsoir tout le monde.
Autre observateur avisé, Patrick Chassé. Bonsoir Patrick.
Bonsoir Axel. Bonsoir à tous.
On sera aussi dans quelques minutes avec Thierry Gouvenou, responsable du tracé du Tour de France, dont il est aussi le directeur. Une première étape avec un sprint qui a accouché d'un vainqueur surprise, un contre-la-montre par équipe agréable à regarder dans les rues de Bruxelles et ce final champagne ici à Épernay que nous réservera à la suite. On en parlera avec Thierry Gouvenou. Et puis cette question qui fait débat chaque année, est-ce l'année des Français? Est-ce le Tour des Français cette année? N'hésitez pas à nous appeler au 39-21, surtout qu'il y a un vélo à gagner.
Europe 1, 19h-20h, le Club Tour.
On va pouvoir facilement se procurer du champagne. C'est ce qu'a dit Patrick Lefebvre, le manager de Conan Quickstep, l'équipe de Julian Alaphilippe, après la victoire de son poulain ici à Épernay, où sont installées de nombreuses maisons de champagne. Avant de vous faire réagir, messieurs, on va écouter la réaction du vainqueur qui a donc franchi seul la ligne d'arrivée et endossé du même coup le maillot jaune de leader de ce Tour de France.
Allez, j'ai encore besoin de temps pour réaliser, mais ça fera partie des plus beaux moments de ma carrière jusqu'à maintenant. D'aller chercher une victoire sur le Tour, c'est toujours spécial, mais de cette manière-là, et en étant très attendu et avec le maillot jaune au bout, c'est juste, je ne pouvais pas espérer mieux. Et avant que le Tour commence, je pensais déjà à ce que j'allais faire aujourd'hui et j'ai exactement fait ce que j'avais envie de faire. Et c'est ce qui est le plus dur en fait, quand ça marche, il faut juste savourer. Je savais que j'étais attendu, j'ai répondu présent, et quand tu commences à réaliser que t'as le jaune sur tes épaules, c'est quelque chose que tous les coureurs imaginent, rêvent, et c'est vraiment spécial. Et avant de le porter, je pouvais que l'imaginer. Là, je peux dire que j'ai le maillot jaune au Tour de France, c'est juste incroyable. Maintenant, ça sera que du bonus. Je vais me battre pour le garder, le maillot, et si je le garde pas longtemps, ça restera quand même un moment que je vais jamais oublier.
Julian Alaphilippe joint au micro Europe 1 de Marguerite Lefebvre juste après avoir passé la ligne d'arrivée. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la course, on est parti de Binche en Belgique, on est arrivé ici à Épernay, 215 km avec une échappée qui s'est formée, qui a été reprise, et puis à 16 km dans la côte de Mutigny, là où on pensait qu'il allait attaquer, Julian Alaphilippe a attaqué. C'est assez extraordinaire parce qu'il le dit, hein, Thomas Voeckler, cette étape je l'ai marquée, le maillot jaune j'aimerais bien, et il le fait.
Alors oui, c'est difficile de trouver des qualificatifs pour ce que Julien a réalisé aujourd'hui. En revanche, faire ce qu'on dit, c'est une chose. Enfin, mais là, c'est-à-dire que les autres n'ont pas dit « Oh, on le laisse, il ne va pas gagner le Tour de France, il n'est pas dangereux, on le laisse partir ». Il était le plus fort et de loin de tout le peloton du Tour de France aujourd'hui, au moment où il est attaqué. Et ça s'est confirmé dans les 15 kilomètres qui ont suivi.
Oui, et puis j'ai l'impression qu'on le prend au sérieux. Moi, quand j'ai vu même l'équipe Ineos se mettre à rouler, à contrôler, alors il y avait aussi la possibilité pour Egan Bernal peut-être de piéger aussi des adversaires. On en reparlera, mais on a bien compris quand même que de toute façon c'est un coureur qui impressionne tout le monde et à qui on ne veut pas laisser la moindre marge de manœuvre. Et ça, c'était assez sympathique.
Et d'année en année, il nous épate de plus en plus. Donc pour confirmer tes propos, on ne sait pas jusqu'où il peut aller et les adversaires peuvent commencer à douter peut-être.
Alors, même s'il s'en défend, hein, parce que moi j'écoutais les confrères étrangers lui posait la question tout à l'heure et il lui disait, mais alors ce maillot, vous allez le garder jusqu'à quand? Est-ce que vous allez le défendre? Est-ce que vous pouvez espérer le garder? Et tout de suite, il a dit non, je vais flancher lors de la planche des belles filles. C'est ce qu'il a tout de suite dit.
On en reparlera effectivement. Pour l'instant, on est avec le maire d'Épernay, Franck Leroy. Bonsoir monsieur le maire.
Bonsoir.
Il y a quelques temps, Christian Prudhomme, le responsable du Tour de France, était venu sur l'antenne d'Europe 1. Il s'était adressé, il avait parlé avec les auditeurs pendant 1h30, une émission spéciale, et il nous avait raconté une anecdote que vous allez pouvoir nous confirmer. Il paraît que vous auriez demandé à l'époque à Christian Prudhomme, ça serait bien que Alaphilippe gagne chez nous à Épernay.
Oui, c'est exact. C'est exact. Si vous voulez, le scénario idéal, moi je suis un fan de vélo, évidemment. Le scénario idéal, c'était une victoire d'Alaphilippe. Et puis, dans nos rêves les plus fous, on s'était dit, pourquoi pas le maillot jaune? Je dois dire que depuis l'étape contre la montre d'hier, on y croyait moins, parce qu'il y avait quand même, de mémoire, 20 ou 21 secondes. et que c'était pas évident de reprendre 20 ou 21 secondes à cette équipe Jumbo-Visma qui avait été impressionnante à Bruxelles. Et puis le miracle est arrivé, sa sortie dans la côte de Mutigny a cloué sur place tout le monde. Et c'est quand même un champion incroyable, parce que le dernier champion qui annonçait ses victoires et qui gagnait, c'était Bernard Hinault quand même. Hein. À chaque fois qu'il avait fait une course, il disait « celle-là, je vais la gagner », il a gagné. Donc Alaphilippe, depuis quelques jours, il était venu mercredi s'entraîner à Épernay. Il avait répété plusieurs fois les descentes, les côtes, etc. Et il avait dit que cette étape était pour lui, et il l'a fait, quoi. Donc je trouve que c'est un immense champion pour ça.
Ouais, comme vous le dites, monsieur le maire, il est venu effectivement en repérage. Souvent, on va repérer les Alpes, les Pyrénées. Oui, Thomas ?
Je suis convaincu que c'est le seul coureur de tout le peloton qui a reconnu ce final d'étape.
Ouais, Sagan était venu il y a une quinzaine de jours. Je crois que les retours étaient pas très bons parce qu'ils pensaient que ce serait un peu trop dur pour lui. Par contre, donc Alaphilippe était venu et effectivement, il avait dit cette étape elle est pour moi. Quoi. Donc, je pense qu'il a confirmé tous les espoirs qu'on plaçait en lui à Épernay.
Et vous, qui connaissez bien le parcours, le tracé, la région en tout cas, vous pensiez qu'il allait attaquer précisément dans cette côte parce que lui, c'est ce qu'il avait un peu dit, même carrément dit.
C'était ce qu'on espérait, mais en même temps, il y avait une bonne quinzaine de kilomètres derrière. Et un homme tout seul face à un peloton qui chasse, vos invités qui connaissent bien mieux le vélo que moi, savent que c'est pas évident, quoi. Pourtant, il a tenu, on était tous crispés sur la ligne d'arrivée, on se disait est-ce qu'il va tenir. Et quand on a vu qu'il a commencé la côte du Mont-Bernon avec 35 secondes d'avance, on s'est dit c'était gagné, quoi. Mais il fallait être costaud pour y croire et puis pour tenir devant un peloton avec les meilleurs derrière, quoi.
Dernière question, monsieur le maire d'Épernay. Lorsqu'on est maire d'une ville, qu'on accueille le Tour de France, qu'on a une victoire française et un maillot jaune, c'est au-delà de ce qu'on peut espérer. La dernière fois, je crois que le Tour de France a accueilli Épernay, ça remonte, Thomas Voeckler n'était pas né.
C'était en 63 pour une arrivée, c'était mon année de naissance, pour tout vous dire. Et écoutez, c'est un rêve, c'est la journée parfaite pour le cyclisme français, pour le Tour de France, pour Épernay, pour la Champagne. Voilà, on ne pouvait pas rêver mieux.
Merci monsieur le maire d'Épernay de nous merci. Avoir joint au téléphone parce que vous avez une soirée chargée là avec les différents invités. Merci beaucoup. Thomas Voeckler, Patrick Chassé, pour revenir quand même à cette performance de Julien Alaphilippe, il y a cette attaque donc dans cette côte à 16 km de l'arrivée. Il se place en avant, il y a donc cet échappé qui a avec quatre Français dont Johan Ofredo qui aime bien aller devant qui avait été repris, puis Timo Wellens le Belge qui était parti tout seul et qui s'est fait récupérer dans cette côte. Et là on voit les cadors du peloton qui sont là, on voit notamment Egan Bernal de l'équipe Ineos qui vise le podium final, qui regarde Julien Alaphilippe. Vous pensez qu'il allait vraiment arriver à le décrocher, Julien qui se retourne et il attend la fin de la côte pour partir? On se dit il est peut-être même parti trop tard. Hein.
En tout cas, les faits lui ont donné raison. Est-ce qu'il est parti trop tard? Ça, on le sait pas.
Mais on voit ça. Cas, on aurait peut-être dit s'il avait perdu. Ça,
voilà.
On aurait été aspiré pour le dire.
En fin de compte, je crois qu'il y a un moment, le vélo, on peut pas tout calculer et il y a une part d'instinct. Et Bernal n'a peut-être pas eu la consigne de suivre ou alors, voilà, on peut pas tout savoir. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de ce sport, c'est que ce qu'il a fait aujourd'hui, je pense que s'il n'avait pas gagné ces deux étapes l'année dernière, s'il n'avait jamais eu de victoire d'étape sur le Tour de France, la sagesse l'aurait emporté, c'est-à-dire qu'il aurait produit cette attaque, mais avec les 15 km comme monsieur le maire vient de nous expliquer, ça veut dire que s'il le fait en solitaire et qu'il se fait rattraper, il n'a plus aucune chance d'avoir assez d'énergie pour aller gagner après au sprint. Alors que l'arrivée en elle-même lui convient. Mais il avait déjà deux étapes dans l'escarcelle en ayant gagné l'an dernier, et son rêve de maillot jaune, il fallait qu'il prenne de l'avance puisque le Wout van Aert de la Jumbo-Visma avait, il avait un peu de retard. Donc il a joué le tout pour le tout. Et c'était le plus fort, je le répète, c'était le plus fort du peloton aujourd'hui.
C'est vrai qu'on a l'impression, quand on voit le démarrage de Julien Alaphilippe, en première ligne, on a qui? On a Egan Bernal, on a Mikel Landa, on a Peter Sagan, on a Max Charman aussi, on a Lutsenko qui a l'air très fort, ce coureur kazakh de l'équipe Astana. Et on les voit, il y en a qui se regardent un petit peu, il y en a d'autres, on sent qu'ils ne peuvent pas y aller. C'est très difficile entre celui qui trouve tout simplement que c'est un peu trop audacieux d'y aller aussitôt, et celui qui tout simplement ne peut pas le faire. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu le classement à l'arrivée, on se rend compte que certains ne pouvaient probablement pas y aller et accompagner Alaphilippe.
Et moi, j'ai peut-être une petite explication à ça. C'est-à-dire que peut-être qu'un Egan Bernal aurait été capable de le suivre. On va pas dire que Julien Alaphilippe va finir devant Egan Bernal aux Champs-Élysées. Mais Egan Bernal, sa force, c'est le collectif de l'équipe Ineos. Et il s'est senti un petit peu démuni tout seul c'est plus pareil quand on doit faire des choix instinctifs, c'est plus la même chose que quand vous êtes guidé par vos capitaines de route et vos équipiers.
Bon, on va continuer à parler de Julien Alaphilippe parce qu'évidemment il y a cette victoire française et qu'on est un peu chauvin forcément, mais d'abord on va retourner vous voir à Paris, Marlène.
Oui, à l'occasion du Tour de France, Europe 1 vous offre chaque semaine, vous qui nous écoutez, votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps avec un vélo Felt, des chaussures et pédales Time d'une valeur de plus de 2 000 €. Tentez votre chance en envoyant dès maintenant Tour par SMS au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS, il vous faut au moins 2 SMS pour jouer. Vous pouvez aussi composer le 39-21, 50 centimes la minute. Et le dimanche 28 juillet, à l'occasion de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, un second tirage au sort vous permettra peut-être de gagner le super pack Felt et Time, un vélo Felt, des chaussures et pédales Time, plus de 6 000 € de matériel pour être équipé comme un pro. Alors envoyez Tour par SMS au 739-21 ou appelez-nous au 3921.
Europe 1, 19h-20h, le Club Tour. Europe 1, 19h-20h, le Club Tour. Axel May.
Mais oui, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite du débrief de l'étape du jour, 3e étape. Axel, vous êtes en direct d'Épernay dans la Marne.
Avec cette victoire, bien sûr, de Julien Alaphilippe qui a fait coup double. Il est maillot jaune ce soir. Il le sera demain lors de la 4e étape qui conduira le peloton vers Nancy. On va prendre un premier auditeur. Hein, je vous rappelle le 39-21 pour nous appeler. Bruno, bonsoir. Vous nous appelez, je crois, de Nice. Vous êtes prof de sport, passionné de vélo, et vous avez une question à poser à Thomas Voeckler après ce succès de Julien Alaphilippe.
Oui, bonsoir. Oui, effectivement, ma question s'adresse plus particulièrement à Thomas, puisqu'il est notre premier témoin sur la moto, et il nous fait vibrer directement comme premier témoin sur la moto. Et donc, Julien, il est un peu comme lui, un coureur avec du panache et de l'instinct. Hein. On parlait du paradoxe entre suivre son instinct et rester sage et se comporter en grand leader. Donc, ma question est la suivante à Thomas. Julien, il a quand même des capacités hors normes et c'est le meilleur Français de tous les temps depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il doit continuer à suivre son instinct et continuer à être imprévisible comme il l'a fait aujourd'hui? Parce qu'on a bien compris qu'il attaque pour prendre 5 secondes et qu'au final, il va aller chercher l'étape en prenant des risques incroyables. Ou alors, est-ce qu'il doit se comporter en leader, comme les autres leaders?
C'est une bonne question. Je crois que Julien Alaphilippe, il faut pas le changer. En revanche, c'est pas le même Julien Alaphilippe qu'il y a 3-4 ans, à ses débuts dans l'équipe Quick-Step. Maintenant, il a toujours gardé ce côté instinctif, mais il ne fait pas de la débauche d'énergie inutile. C'est-à-dire qu'il y a encore 3-4 ans, il aurait pu attaquer à des moments qui étaient pas très opportuns ou quoi. Il a gardé cet instinct, mais il sait courir juste, ce qui n'est pas incompatible avec faire le spectacle et aller chercher des résultats de cette manière. En revanche, je crois qu'il faut le laisser comme il est, c'est-à-dire que pour être performant, il faut savoir être soi-même. Et si vous allez contre nature avec un garçon comme Julien et que vous lui expliquez qu'il faut faire des stages d'entraînement et puis ne surtout pas attaquer parce qu'il faut suivre, être sur la défensive et puis laisser les autres rouler avant, il prendra plus de plaisir. Et si un gars comme lui ne prend pas de plaisir, il en est obligatoirement moins performant.
Merci Bruno de nous avoir appelé au 39-21. Thierry Gouvenou, qui est le directeur de l'épreuve, qui est responsable du tracé, nous a rejoint à l'instant. Bonsoir Thierry, merci parce que vous êtes toujours très sollicité. Vous êtes déjà vous en train de travailler presque sur l'étape de demain. C'est un responsable d'épreuve heureux là qu'on a ce soir quand on trace le Tour de France, et que dès la 3e étape, qui plus est, quand on arrive en France, il y a une victoire tricolore. Vous dites banco, j'ai réussi là.
Oui, alors le côté tricolore, je dois le mettre un petit peu de côté quand même, parce que je dois rester neutre, hein, je suis juste organisateur. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, avec Christian Prudhomme, on cherche à faire évoluer les parcours, notamment dans les parties de plaine. Et c'est vrai que ce soir, on savoure quand même, enfin, une étape qui a été digne de ce qu'on recherche sur le terrain, quoi.
Et là, autant l'année dernière, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard, il y a eu des critiques en disant que la première semaine, les 10 premiers jours étaient un peu longs, il y avait un peu trop de sprint. Mais vous nous avez expliqué, quand on part de l'ouest de la France et qu'il faut ensuite récupérer la montagne, on est forcé de passer par ce genre d'épreuves qui peuvent être un peu longues parfois. Là, première épreuve pour les sprinteurs à Bruxelles. Sprint, j'allais dire magique, c'est pas du tout ce qu'on attendait qui gagne. Le contre-la-montre par équipe, c'est agréable à regarder. En plus, ça a été dominé de manière magistrale par l'équipe Jumbo-Visma. Et là, ce final accidenté, voilà, honnêtement, c'est un sans faute pour l'instant. Après trois, il reste 18 encore, mais...
Oui, c'est vrai que si on compare par rapport à l'an passé, on est sur des bases bien meilleures. On a déjà eu des choses enthousiasmantes et on espère que ça va durer, quoi, parce que... C'est vrai que l'an passé, bon, on avait prévu des choses, notamment en Bretagne, avec l'arrivée à Quimper, le mur de Bretagne, mais ça n'avait pas donné, c'était vraiment très sclérosé. Les coureurs ne s'exprimaient pas. Et cette année, y a des choses qui sont sympas à voir. On a déjà vu Greg Van Avermaet dans la première étape attaquer dès le départ, la team Vilent. Et puis, on a un final extraordinaire. Donc, on en redemande.
Les deux Belges qui ont récupéré au début Van Avermaet et Wellens le maillot à poids.
Oui, c'est ça. Et puis, petite confidence, j'ai croisé Christian Prudhomme ce matin au village départ. Je dis, écoute, Christian, avec le parcours qu'on a aujourd'hui, si les coureurs n'en profitent pas pour nous faire une magnifique course, il ne faudra pas qu'ils viennent se plaindre après que c'est un peu ennuyant ou quoi. Ils nous ont fait une course magnifique.
Il y en a peut-être quand même qui n'en ont pas profité. On en parlera, je l'espère. Mais en tout cas, Julien, il a bien fait d'en profiter puisque son attaque a été payante. J'ai une question concernant cette région de Champagne. Je regardais dans le passé, on y passe pas si souvent avec le Tour de France. Enfin, on y passe, mais on s'y arrête peut-être pas si souvent à Épernay ou à Reims, où nous serons demain au départ. Et il y a cette montagne de Reims, montagne, le mot un petit peu fort, avec Reims au nord, avec Épernay au sud. Je regardais les passages précédents, mais alors on l'a pas, vous l'avez, je vais pas dire que vous l'avez découvert cette année, mais pourquoi n'avoir pas choisi de venir aussi vite, aussi tardivement dans les étapes sur la montagne de Reims quand on arrivait auparavant justement à Reims ou à Épernay. Alors Épernay c'était pas fréquent, mais à Reims ça l'était davantage. À chaque fois ça finissait par un sprint massif.
C'est vrai que déjà, en ayant choisi Épernay, ça change tout. Parce qu'à Épernay, on est plus proche des dernières côtes. À Reims, les dernières côtes sont quand même assez loin. Alors, je ne vais pas parler à la passe de demain.
Pour Reims.
Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que lorsqu'on a décidé que l'arrivée serait à Épernay, en fin de compte, on n'a trouvé qu'un seul site d'arrivée. Parce que tout était compliqué ailleurs. On n'a trouvé que ce site dans cette pente raide. Et lorsqu'on a vu cette pente raide, on s'est dit, on est obligé d'ajouter des côtes avant parce qu'on ne peut pas emmener un peloton groupé dans ce goulet. Et donc, il a fallu trouver d'autres côtes. Et c'est ce qui a fait, en fin de compte, le côté un peu attractif
en
de
gros,
cette
étape. Vous avez pas fait exprès de nous choisir un super
vous
parcours.
Vous êtes en train de nous dire, parce que l'arrivée risquait d'être un peu tordue, que vous avez mis des difficultés. Mais on aimerait le contraire. Non. Finalement...
Si on raconte toute l'histoire, au début, on devait arriver à Épernay par des chemins de vigne en calcaire. Et puis,
ça c'est le truc de Thierry Gouvenou.
On s'est rendu compte que c'était pas possible parce qu'on pouvait facilement monter sur la colline par des chemins, mais on pouvait pas descendre pour la sécurité des coureurs. Et donc, ça fait un long cheminement. Et cette étape d'Épernay, on travaille dessus depuis, avec mon équipe, depuis plus de deux ans et demi, quoi.
Bon, allez, on fait un petit détour par Paris, puis vous allez continuer à nous parler de cette manière passionnée du tracé du Tour de France, Thierry Gouvenou.
19h-20h, le Club Tour. Europe 1, 19h-20h, le Club Tour.
Et oui, avec vous Axel May, en direct, on le rappelle, d'Épernay dans la Marne.
Avec Thomas Vauclair, notre nouveau consultant sur Europe 1, Patrick Chassé, qu'on ne présente plus, qui nous accompagne depuis quelques années maintenant dans les Club Tours, et puis Thierry Gouvenou, le responsable du tracé, directeur de l'épreuve. Alors il y a des personnes qui me demandent, mais c'est pas Christian Prudhomme le directeur du Tour de France? Si, expliquez juste la petite nuance rapidement, Thierry Gouvenou.
C'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Et vous? C'est lui qui fait la relation avec les villes, les collectivités pour choisir les villes départ, villes arrivées. Et puis après, il me demande de tracer d'un point de vue sportif le parcours entre cette ville départ et cette ville arrivée.
Et vous avez quand même le titre de directeur de l'épreuve.
Oui, la partie sportive. Je gère la partie sportive que Christian, lui, gère l'ensemble, la communication, la carrière publicitaire, tout le Tour de France, les relations avec les collectivités.
Bon, on est, je crois, avec une auditrice. Bonsoir. qui va... Bonsoir.
Bonsoir.
Vous vouliez, je crois, réagir. Vous pouvez vous présenter, je crois, votre prénom et vous appelez d'où ?
Je suis Marine et j'appelle de Nancy.
Bon, ah bah, c'est Nancy où on sera demain, ça tombe bien. Et je crois exactement. Que vous aviez envie de réagir parce que vous vouliez me poser à la fois une question sur la victoire d'Alaphilippe et sur le tracé. Alors, vous avez Thierry Gouvenou, le responsable du tracé du Tour de France qui est là, Thomas Voeckler, le consultant d'Europe 1, et Patrick Chassé, observateur avisé du Tour de France. Donc, posez la question à qui vous voulez ou aux trois, même si vous le souhaitez.
Sur la victoire de Julien Alaphilippe aujourd'hui, c'est sûr. Est-ce qu'il a attendu le dernier moment? Parce que du coup, je fais toutes les étapes un jour avant, donc j'ai pas pu assister à l'étape du jour, mais je l'ai parcouru hier. On a bien vu que c'était tagué partout, Julien, dans toutes les dernières difficultés qu'on lançait sur les 50 derniers kilomètres. Donc, est-ce qu'il s'y est pris plutôt tôt, tardivement? Je ne sais pas, mais en tout cas, ses qualités de grimpeur-puncher lui ont permis de s'imposer. C'est formidable.
Alors, on rappelle quand même que si Julien Alaphilippe a gagné aujourd'hui, c'est parce qu'il est parti effectivement dans ces côtes de fin de parcours et qu'il est allé effectivement s'imposer en solitaire après, on va dire, dans les 15 derniers kilomètres. En partant dans la côte du Mitini, qui était la côte la plus difficile de cette fin de parcours. Demain, d'ailleurs, près de chez vous, en arrivant à Nancy, il y aura une côte, mais ça sera moins difficile. Thierry Gouvenou, vous confirmez, ce sera quand même nettement moins difficile que le final d'aujourd'hui.
Oui, il faut quand même en laisser quand même pour l'esprit. Donc demain, on a notamment un parcours propice à une arrivée au sprint massif.
Et Marine, vous faites partie donc, j'imagine, du collectif Donnons des ailes au vélo qui font la course, effectivement, ces cyclistes femmes qui font la course un jour avant.
Exactement, Donnons des ailes au vélo J-1. Alors on ne fait pas une course, on réalise l'intégralité du parcours du Tour de France un jour avant les pros. On est des cyclistes amateurs qui cherchons à promouvoir le cyclisme au féminin et surtout le retour d'une grande course par étapes en France, si possible en même temps que le Tour de France, ou à fortiori, comme le fait l'Italie, un Giro Rossa, certes déconnecté, mais qui a lieu. Donc,
une course par étapes en France. Effectivement.
C'est
la troisième année, je crois, que vous faites cela. Est-ce que vous l'aviez fait déjà auparavant, vous personnellement?
C'est la troisième année pour ma part, c'est la cinquième édition que le projet existe. Donc pour ma part, c'est la troisième fois. Et si j'avais une question à poser à Thomas Voeckler, je crois que j'en ai l'opportunité ce soir.
Ben oui, bien sûr, je suis là, je suis à votre écoute. Moi aussi j'ai une question, vous faites toutes les étapes en intégralité?
On fait toutes les étapes en intégralité. Donc là, si je suis à Nancy, c'est qu'on vient d'être reçu par monsieur le maire, Laurent Hénard.
Je tiens à vous féliciter parce que vous faites 3300 km en 21 jours, coup de chapeau à vous.
Exactement, à une allure un peu réduite, parce que forcément on a route ouverte, on s'arrête au feu rouge, au carrefour, donc et puis on a un peloton un peu moins fourni que celui de nos homologues, pas homologues parce qu'on n'est pas pro, donc masculin. Après on a pour but d'arriver à 13, on part à 13, on arrive à 13, donc c'est pas une course, on n'a pas de dossard. On veut simplement montrer que les femmes peuvent, à l'eau claire, parce que bien sûr on n'est pas dopé, réaliser le Tour de France déjà, et puis que les élites pro féminines ont droit à une course par étapes en France.
J'écoute votre question.
Alors, je vous pose une question. En tant que sélectionneur de l'équipe de France masculine, est-ce que vous avez en tête un projet, une volonté pour faire progresser le cyclisme féminin en France? Peut-être, je ne sais pas, avez-vous une idée? Alors, en particulier à mettre
en place pour votre format? C'est très marrant que ça tombe à pic, votre question, parce que moi, donc, je suis bien manager de l'équipe de France route professionnelle, mais masculine, mais je suis en relation avec les entraîneurs nationaux des équipes féminines. Et pour votre information, il y a une nouvelle épreuve au championnat d'Europe cette année qui aura lieu, cette épreuve le 7 août, et elle sera également présente au Mondial le dimanche qui précède la course en ligne Elite Homme. C'est un relais mixte, c'est-à-dire que vous avez des coureurs professionnels qui partent faire 22 km et ensuite qui donnent le relais à trois féminines. Donc pour promouvoir un petit peu le cyclisme féminin, les instances essayent de le mettre en avant, même si on aimerait tous qu'il y ait une belle course féminine qui revienne en France. Mais pendant la période du Tour de France, je crois que ça serait même pas un service à rendre aux filles. Pourquoi pas? Ça serait injuste, elles seraient éclipsées par le Tour de France masculin, et elles méritent une épreuve qui leur soit dédiée, mais pas en concurrence avec le Tour de France.
Merci en tout cas. Ouais.
Je crois juste Christian Prudhomme, et peut-être que Thierry Gouvenou va nous le confirmer, avait été interrogé au départ du Tour justement sur pourquoi pas organiser un tour pour les filles. Et la réponse de Christian avait été de dire
aujourd'hui, je ne sais pas faire. C'est d'un point de vue, le Tour est devenu tellement important, tellement gigantesque, et monopolise tellement de forces de l'ordre et de moyens d'organisation, et aussi au niveau des collectivités, qu'il serait difficile d'imaginer ce qui est possible sur des classiques, c'est-à-dire sur une course d'une journée, d'organiser deux épreuves en une. Sur une épreuve de trois semaines, là, c'est beaucoup plus compliqué.
Ben c'est vrai que les contraintes en termes de logistique, de timing, pour la sécurité, tout ça, sont très compliquées dès qu'on organise un deuxième événement, un événement parallèle à celui du Tour de France. Et bon, on organise tous les ans la course by le Tour de France, qui se déroule sur une journée. Mais à chaque fois, sur cette journée-là, on sent qu'on se met quelque part, je dirais entre parenthèses, en danger, parce que tout est très tendu dans le timing, et pour les villes, c'est très dur à gérer. Pour les forces de l'ordre aussi, de bloquer des routes pendant 6-7 heures, c'est des choses qui sont assez compliquées.
Moi, je voulais juste ajouter que on a vraiment tous envie, et pas seulement les filles, que le cyclisme féminin soit plus mis en avant. Il faut noter quand même que depuis quelques années, quasiment toutes les grandes courses masculines d'un jour ont leur pendant féminin. Et l'année prochaine, comme cette année d'ailleurs, il y a de plus en plus de courses qui sont retransmises en direct. Et il y a vraiment un énorme, on peut toujours faire plus, mais depuis quelques années, il y a un énorme travail qui a été fait. Le dernier en date, c'est un accord qui est tombé il y a à peine deux semaines, comme quoi il y aura un salaire minimum pour les coureuses, pour les coureurs professionnels, les coureuses professionnelles, ce qui n'était pas encore le cas, pour qu'elles puissent vivre dignement de leur métier.
On remercie Marine, et j'ai retrouvé le nom, Marine Thiébaud, de nom des ailes au vélo, d'avoir réagi. On va continuer à parler du tracé, notamment de ce tracé demain, et cette question, est-ce que Julien Alaphilippe va conserver le maillot jaune, sans doute demain, mais jusqu'où pourra-t-il le conserver?
Et si vous souhaitez intervenir et réagir sur notre antenne, n'hésitez pas, 39 21 50 centimes la minute, on vous attend.
Le Club Tour, Axel May. Europe 1, 19h-20h. Le Club Tour,
eh oui.
Axel May.
Axel qui est dans la Marne, on le rappelle. Axel, vous êtes toujours en direct d'Épernay. Alors, on a parlé de l'étape de demain, Reims-Nancy. Et maintenant, alors, de quoi est-il question?
Alors, on va continuer à parler de cette étape et de cette question. Le maillot jaune va-t-il être conservé longtemps par Julien Alaphilippe? Juste un dernier mot quand même sur l'étape du jour. Romain Bardet, qui vise le général final, dit « C'était très beau, Thierry Gouvenou, directeur du tracé, c'était très beau à travers les vignes, mais aussi très très rude. » Il a perdu un peu de temps d'ailleurs. Romain Bardet, une étape digne d'un début de tour avec beaucoup de nervosité. Quand vous avez tracé cette étape, Thierry Gounou, vous saviez que ça pouvait être comme ça. Vous espériez même, je crois, qu'il y ait du vent au début pour que ça scinde le peloton.
Oui, c'est vrai qu'on avait une étape qui nous faisait envie. Ouais. Alors, il aurait pu y avoir des bordures avant d'arriver à Reims, mais c'est vrai que c'était quand même assez loin de la ligne d'arrivée. Bon, le vent s'est bien positionné en vent arrière plutôt que vent de côté, donc ça, on a vu une vitesse assez rapide, mais pas de cassure dans le peloton. Par contre, dans le final, on était sûr qu'avec tous ces changements de direction, ces routes étroites, etc., qu'il y allait y avoir des cassures dans le peloton.
Quand on regarde l'étape de demain, Reims-Nancy, a priori, c'est quand même plutôt fait pour les sprinteurs. Puis après mercredi, on aura Saint-Dié-des-Vosges, Colmar. Là, c'est puncher. La montagne, moyenne montagne, mais montagne quand même, Mulhouse, la planche des Belles-Filles, ça sera jeudi. Vous nous avez réservé là aussi un triptyque où on devrait avoir des surprises, de l'animation.
Oui, et puis on va pouvoir tester notre maillot jaune quelque part. C'est vrai que l'an passé, il a fait des exploits en montagne, mais en prenant un peu les devants dans la montagne, en accumulant des points. Je parle d'Alaphilippe, hein, bien
oui,
sûr.
Deux victoires dans les Alpes.
Oui, en accumulant des points, en partant de loin, etc. Là, cette fois-ci, il va avoir le maillot jaune. Et on va voir vraiment sa réelle valeur en montagne. Parce que c'est vrai que l'étape des Vosges est déjà un vrai concentré de montagne. Et je parle de la planche des Belles-Filles. Et on pourra voir exactement sa capacité en montagne face aux plus grands coureurs.
Alors, je vais pas vous demander, parce que vous le rappeliez, vous êtes quand même soumis à un droit de réserve. Vous êtes responsable de ce tracé. Vous n'allez pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais j'ai plutôt posé la question à Thomas Voeckler. Combien de temps il peut garder ce maillot jaune, Julien Alaphilippe, même s'il dit, oh, moi, je suis déjà content de l'avoir. Mais le connaissant un peu.
L'arrivée à la planche des Belles-Filles, il dit que c'est trop dur pour lui, trop long, et qu'il n'y arrivera pas. Il ne sait pas encore ce que procure comme motivation et comme force un maillot jaune. Moi, je prends le pari qu'il va le garder 9 ou 10 jours.
9 ou 10 jours, ça nous amène quasiment...
Ça nous amène, dans le meilleur des cas, 10 jours au contre-la-montre de Pau, où là, je crois qu'il aura du mal à faire face aux grosses, grosses cylindrées. Et sinon, la veille, avec l'arrivée à Bagnères-de-Bigorre, où il y a deux cols, le col de Perreux-Sourde et le col de la Ourquette dans 6 ans, mais qui ne sont pas très longs et qui sont dans ces cordes aussi.
Ça voudrait dire qu'il passerait le jaune, la journée du 14 juillet en jaune. Patrick Chassé, vous êtes aussi optimiste que ne l'est Thomas Voeckler?
Non.
c'est bien.
Non mais je m'interroge en même temps parce que attendez
je reconnais que souvent je me laisse déborder par plus par mes envies personnelles
en général,
que l'objectivité.
C'est pour ça que je suis déstabilisé, c'est que d'habitude c'est les journalistes qui sont un peu des rêveurs et les consultants qui nous ramènent à la raison. Là c'est audacieux quand même ce que vient
je
de dire.
Je connais la planche des belles filles.
Oui.
Je l'ai montée quelques fois.
Mieux que moi. Mais ça c'est sûr. Mais ce que je voulais dire c'est que en ce qui concerne Julien Alaphilippe, moi je me souviens qu'au micro d'Europe 1 l'année dernière, on avait Patrick Lefebvre qui ne voulait absolument pas que son coureur soit omnubilé par le classement général. Alors un maillot ça se défend, ça veut pas dire que si on le défend on ne veut pas. Et je me souviens que Thomas Voeckler en 2012 disait mais non je vais pas gagner le Tour, mais non je vais pas gagner le Tour. 2011 et finalement il gardait le maillot de jour en jour donc
ouais, ça c'était de la communication mais par contre quand je disais que j'allais pas gagner le Tour ça je le pensais mais bien sûr que je faisais tout pour le défendre ça sonore il
et
faut
c'est
être digne
justement
d'un maillot jaune.
Et c'est justement ce que Patrick Lefebvre ne laissera peut-être pas faire à Julien Alaphilippe en lui alors à moins qu'il fasse lui aussi de la communication.
Ah non, si c'est ça je vais à la voiture et je le secoue c'est pas possible
on a un maillot jaune, ça se défend. Mais en lui demandant d'aller plutôt chercher des victoires d'étape. Parce que il y a d'autres étapes qui peuvent lui convenir à Julien Alaphilippe, et il aura du mal à faire les deux.
Que les choses soient claires, je ne suis pas en train de dire qu'il va viser un classement général à Paris. Mais compte tenu du profil des étapes qui arrivent, s'il le perd quelque part, c'est à la planche des belles filles. Moi, j'ai bon espoir, je suis convaincu qu'il va le garder. Et ensuite, son équipe, de toute façon, elle travaillera à la fois pour les sprints pour Viviani, elle travaillera pour d'autres raisons. Donc, quel est le maillot jaune ou pas, elle aura l'aide d'autres équipes aussi pour les sprints. Faut pas croire que c'est toujours un poids le maillot jaune. Et puis, on peut pas. Au niveau médiatique, si il a des consignes de laisser filer le maillot jaune, ça serait au niveau de l'image pour l'équipe de Connect Quickstep, ça serait complètement contre-productif.
Thierry Gouvenou, vous aviez une autre version?
Oui. Moi, je pense que physiquement, il va craquer dans la planche des belles filles, mais par contre, il a un super terrain derrière avec les étapes de Saint-Étienne et de Brioude pour reprendre le maillot jaune, parce que l'équipe qui va prendre le maillot jaune en haut de la planche des belles filles, je pense que ce sera une grosse équipe avec un gros leader. Elle n'aura pas envie de se coltiner le maillot jaune pendant plusieurs jours.
Moi, je suis assez d'accord avec cette hypothèse et j'ai plutôt l'impression, mais là, je suis complètement en contradiction avec Thomas, que non, ils ne vont pas chercher à le conserver outre mesure dans la planche parce que, encore une fois, parfois, c'est bien de le perdre pour le récupérer ensuite ou, et à la clé, bien sûr, avec la possibilité de sortir et d'aller chercher une victoire d'étape.
Après, moi, j'ai fait du vélo, mais j'ai pas la science infuse et je reconnais tout à fait quand je me plante.
Il n'y a pas de problème.
Mais non, la planche des belles filles, juste une dernière parenthèse là-dessus, il n'y a pas que la planche des belles filles, Thierry l'a rappelé. Il y a juste avant le col des Chevrères qui est extrêmement sélectif. La route est étroite, c'est très raide. Mais c'est aussi la première étape vraiment pour les purs favoris. Et qu'est-ce qui se passe souvent la première étape du Tour de France? Dans la première arrivée, il y a de l'observation. On prend pas trop de risques. Et ça peut faire le jeu de Julien Alaphilippe.
En tout cas, jusqu'où peut-il aller? Moi, je me souviens de celui qui était à votre poste l'an dernier, Thomas Voeckler, Richard Viran, qui connaissait bien Julien Alaphilippe et qui nous disait « Moi, c'est un gars qui peut viser un jour, pas maintenant, mais un jour, il peut viser le classement général d'un grand tour. »
Je l'ai dit l'an dernier, moi aussi.
Ouais, donc on en reparlera peut-être dans quelques années, effectivement.
En tout cas, mentalement, pour l'instant, il n'est pas prêt. Ça, c'est sûr, il s'amuse autrement et il ne faut pas essayer de le changer. Oui. Ouais. Là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec Patrick Lefebvre et avec Patrick Chassé.
Moi, j'ai pas donné mon avis là-dessus.
Les deux sont d'accord.
On en reparlera plus tard.
On va se poser la question, qui peut gagner demain au sprint? Et puis, cette question plus générale, cette question qui fait souvent débat, est-ce que c'est le tour des Français, l'année des Français sur le tour?
Et à l'occasion du Tour de France, Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps avec un vélo Felt, des chaussures et pédales Time d'une valeur de plus de 2000 euros. Tentez votre chance en envoyant dès maintenant Tour par SMS au 7 39 21 75 centimes. Plus coût du SMS, il faut, je le rappelle, 2 SMS pour jouer. Vous pouvez aussi composer le 39 21 50 centimes la minute.
Europe 1, 19h20. Le Club Tour.
Oui, nous sommes avec Axel May dans la capitale du Champagne et sur Europe 1. Axel, en direct d'Épernay.
Et même s'il fait chaud dans le studio, je vous garantis, on ne boit que de l'eau. Patrick Chassé, Thomas Veuclair, le consultant européen, Thierry Gouvenou, le responsable du tracé, sont toujours là. Et on est en ligne avec Pierre. Bonsoir Pierre, vous nous avez appelé au 3921.
Oui, bonsoir.
De Mulhouse. Et vous, ça tombe bien parce que c'est ce dont on va parler. Vous avez une question, j'imagine, pour Thomas sur l'étape de demain. Départ de Reims, arrivée à Nancy.
Non, c'est l'étape de Colmar.
Colmar, bon, c'est la région d'origine de Thomas.
Voilà, parce que tout le monde parle du Planche des Belles Filles, mais moi je dirais l'étape de Colmar, la Côte des Cinq Châteaux, vous étiez un peu gentils, ils ont mis en troisième catégorie, moi j'aurais mis en deuxième catégorie. C'est quand même une côte qui fait très mal, il y a quand même des pourcentages à 11%. Vous avez un faux plat vers la fin qui fait mal, qu'on roule avec mes copains du club, je sais pas si je peux dire le nom des copains du club. Après vous avez la descente, très technique, très rapide. Déjà, nous, en roulant comme ça le dimanche, on descend à 70 km/h, alors que la route n'est pas barrée pour nous. Alors, je vous explique pas, Alain Philippe, là, il attaque au Saint-Château, il part dans la descente, il fera des pointes de 100 km/h sûr et certain, et là, il peut reprendre du temps pour le maillot jaune. Il peut prendre facilement 30 à 40 secondes. Même Bardet, qui est très fort en descente, même lui pourrait reprendre du temps ici.
Et tout le monde imaginer une opération collective Bardet à la Philippe. Rêvons un peu.
Oui.
Mais non, vous avez tout à fait raison. C'est pas parce qu'il y a la planche des belles filles en arrivant en altitude qu'il faut occulter l'étape de la veille. C'est un gros morceau.
Oui.
Et c'est vrai que on peut avoir des surprises, même si à la veille des grosses étapes de montagne comme le lendemain, les équipes en général laisse des fois se développer une échappée. C'est peut-être la première chance pour une échappée de baroudeur haut de gamme, hein, j'entends, de rallier l'arrivée à Colmar en tête. Ce qui n'empêcherait pas dans un deuxième temps d'attaquer pour gagner du temps avec
si
le maillot jaune.
Si je peux me permettre, c'est ça qui est souvent un petit peu gênant. Je pense surtout aux équipes qui ont plusieurs leaders, qui ont deux cartes. Il y en a quand même quelques-unes. C'est toujours dommage d'attendre que ces deux cartes soient placées dans le classement pour voir une équipe en abattre une, justement, et surprendre un petit peu la veille d'une étape de montagne. Voilà. Ça, j'aimerais bien qu'on le voit, en tout cas, justement, à l'occasion de cette étape de Colmar.
Merci, Pierre, de nous avoir appelé au 3921 pour nous faire partager.
Je sais pas s'il faut lui dire merci, parce que s'il y a des adversaires qui ont écouté, ils vont savoir qu'il faut se méfier maintenant. Tout le monde connaît le parcours.
Merci, demain, Pierre. En tout cas, demain, on lui dit merci quand même de nous avoir appelé. Demain, étape au sprint. Ça risque pas d'être une victoire française parce que même si Christophe Laporte est bon, c'est pas sur le papier le meilleur des sprinteurs. Les sprinteurs devraient amener, les équipes de sprinteurs devraient amener leur.
Mais si c'était toujours le meilleur qui gagnait, ça, il y aurait pas de.
Par contre, à propos de Cofidis, l'équipe de Laporte, il semblerait qu'il soit en train, Patrick, de recruter Viviani, la star italienne de Quickstep.
C'est ce qu'on raconte avec insistance. C'est presque une information donnée à mi-mot et évidemment, ce n'est pas officialisé, puisque vous le savez, il y a une période de mercato qui est officielle et qui débute le 1er août. Mais allez, on sait déjà beaucoup de choses, notamment à l'occasion du Tour de France, et les auditeurs ont raison d'écouter le Tour s'ils veulent savoir à quoi ressemblera le peloton l'année prochaine.
Thierry Gouvenou, très rapidement, cette étape demain, un auditeur qui se dirait, bon, ça va être du sprint, ça va être pas très intéressant à écouter, à regarder, vous lui diriez quoi pour lui donner envie?
J'ai envie de dire qu'on peut pas faire 21 jours hyper durs et qu'il y a de temps en temps, il faut faire des étapes où les coureurs puissent respirer un petit peu. Bon, et donc, oui, demain, c'est une respiration.
Une respiration.
Je confirme. Il faut des étapes pas toujours aussi dures qu'aujourd'hui.
Bon, et cette question, je voulais vous poser à tous. Chaque année, on se la pose. Est-ce que c'est l'année des Français? Là, on se dit, alors, Cocorico, troisième étape, déjà une victoire française, déjà le maillot jaune. Mais quand on regarde, Thibaut Pinot, il a récupéré 5 secondes avec Bernal sur les favoris. Il en a profité dans le final. En revanche, Bardet a encore perdu un peu de temps, semble.
Pareil que les autres. Ouais. Et en gros, c'est simple. Il y a le vainqueur, Julien Alaphilippe. Derrière, il y a une douzaine de coureurs qui ont fait plutôt une bonne opération, parmi lesquels, effectivement, on retrouve Thibaut Pinot et Egan Bernal. Et puis, tous les autres favoris ont été pris, comme on dit dans le vélo, ont été pris dans la cassure et ils ont perdu 5 secondes. Bon, 5 secondes, c'est pas grand-chose, honnêtement. Mais Bardet, il a fait... moi, si vous voulez voir les choses de façon positive, il a gagné 50 places au classement général aujourd'hui, Bardet. Donc finalement, c'est pas si mal. On peut perdre du temps et gagner des places. C'est ça la magie du vélo.
Alors, est-ce que c'est l'année des Français? Thomas, vous dites, ça sent bon cette année.
Ouais, mais je le disais déjà avant que la course commence. Alors, attention, il faut pas s'emballer. On est au bout de 3 jours de course. Mais on nous aurait dit, au bout de 3 jours de course, un Français, Alaphilippe, sans doute le plus populaire avec le maillot jaune. Déjà, on aurait signé demain. Et on a encore 2 chances pour le classement général, sans oublier Warren Barguil et aussi Guillaume Martin, pourquoi pas, en montagne, qui peuvent nous donner énormément de plaisir. Donc,
Et puis, on a Pinot 12e.
Et on a, et puis Thibaut Pinot, je crois que c'est pas le même Thibaut Pinot qu'il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Hier, on a parlé du contre-la-montre par équipe de la Groupama FDJ qui a été extrêmement professionnel et tout à fait à la hauteur des grosses écuries internationales. Aujourd'hui, on a vu Thibaut Pinot avoir un ennui mécanique à l'approche d'un moment stratégique. Le mécanicien a mis un petit peu de temps à changer la roue. Avant Thibaut Pinot, il aurait levé la main, il aurait dit bon, tu te dépêches un peu. Il est resté calme, il avait son capitaine de route, il est retourné. Et on voit que dans le final, il est vigilant, il termine à la 12e place, je crois, et il ne se prend pas de cassure, contrairement à l'ensemble des autres favoris, à part Egan Bernal. C'est un Thibaut Pinot mûr, que ça soit d'un point de vue personnel ou collectif au sein de son équipe.
Il est 10e à l'étape, il est 12e au général.
Thierry Gounou, je ne vais pas vous poser la question. Si je vous pose la question, vous, c'est l'année des Français, vous pensez?
Personnellement, j'aime pas trop cette opposition entre Pinot et Bardet. Je pense qu'il faut leur laisser leur chance à 100% de faire leur course. Et en troisième semaine, il va se passer beaucoup de choses. Et ceux qui sont critiqués dans les premiers jours pourront relever la tête certainement plus tard.
Et j'en profite, c'est la fin de cette émission déjà, mais Thierry Gouvenou, vous qui faites le tracé, on a Patrick Chassé. Vous savez comment il a décidé de faire le Tour de France cette année? Expliquez rapidement, Patrick
j'ai
Chassé.
Sur les réseaux sociaux, en début d'étape.
Oui. Ben, j'ai commencé le Tour de France en ratant mon train ce matin. Voilà. Non, effectivement, j'ai décidé. Alors c'est venu parce que vous avez, vous voyez, je vole à votre secours. Vous avez été le Tour de France critiqué par des associations. Alors parce que le Tour de France, c'est le paradoxe du vélo, du tour en tout cas, et pas du vélo, c'est le paradoxe, c'est de faire la promotion d'un sport qui ne pollue pas, et d'être en même temps, parce que l'événement est gigantesque, j'ose le dire, une machine à polluer, forcément, quand il y a une telle concentration de public, de moyens mis en place autour d'une épreuve, et bien forcément, ça pollue. Et moi, je vais pas faire école, hein, je vous le dis tout de suite, parce que ça fait sourire beaucoup de mes confrères déjà, mais je les aime beaucoup malgré tout. Je me suis dit, tiens, pour évoquer ça, pour en parler, essayons déjà pour comprendre aussi, essayons d'utiliser un peu plus les moyens de transport qui existent, et puis aussi le vélo, mais le but du jeu n'est pas de faire du vélo, au contraire, c'est d'en faire le moins possible.
Ouais, et vous avez votre vélo là qui est dehors et qui vous attend. Vous dormez à Reims ce soir, hein?
Oui. Épernay-Reims, ça fait. Je vais prendre le train. Épernay-Reims, c'est pas long. Hein. Il y a une demi-heure. Le problème, c'est qu'à cette heure-là, il y a plus beaucoup de trains. Donc, je dis à mes potes, attendez-moi quand même. Hein, mais
on en reparlera tous les soirs. On en reparlera un peu de vos aventures. Patrick Chassé, Thomas Veuclair, le consultant européen, merci. Et puis Thierry Gouvenou, merci encore d'avoir trouvé un peu de temps dans votre emploi du temps surchargé, directeur de l'épreuve et responsable du tracé. À demain.
Oui, à demain, Axel. Mais pour le Club Tour, je rappelle que nous serons entre la Champagne et la Lorraine dans un instant sur Europe 1, au cœur de l'histoire avec Pape Fabrice d'Almeida. On partira pour l'Égypte, sur les bords du Nil, puis dans la vallée des rois. C'est là qu'en 1922, on a fait une découverte extraordinaire, la tombe du pharaon Toutankhamon. Restez avec nous.